60 minutes business, BFM Business avec vous.
60 minutes business, deuxième partie de l'émission BFM avec vous, avec Lorraine Goumeau, comme tous les jours. Bonjour Lorraine.
Bonjour Sandra, bonjour à tous.
On est lundi, on parle droit du travail, Lorraine.
Oui, et c'est Nicolas Mancret qui nous accompagne ce midi. Bonjour Nicolas.
Bonjour Lorraine, bonjour Sandra.
Vous êtes avocat associé au cabinet Janté avec nous sur ce jeu de questions-réponses. Avant de démarrer, comment ça va? Quel est le moral de vos clients et quelle est la plus grosse problématique que vous adressez depuis la rentrée?
Le moral des clients n'est pas formidable. Il y a les négociations sur la prime de pouvoir d'achat, évidemment. Les négociations annuelles sur les salaires qui veulent démarrer rapidement. Et puis enfin et surtout, bien sûr, la question énergétique, avec le fait de se demander s'il faudra y avoir du télétravail, plus ou moins, quelles seront les mesures à prendre dans les prochains mois.
Alors justement, on va démarrer avec cette prime pouvoir d'achat dont on parle beaucoup sur notre antenne et vous êtes nombreux et nombreuses à nous écrire. C'est Antoine qui nous dit « Certains de mes collègues ont reçu une prime sur le pouvoir d'achat plus élevée que la mienne. Est-ce normal ?»
La prime pouvoir d'achat elle a été mise en place par la loi du 16 août 2022 et la particularité, c'est qu'elle permet de donner des montants différents en fonction des catégories de salariés. Quels vont être les critères? C'est la question. Il peut s'agir de la classification des salariés, de leur niveau hiérarchique, leur rémunération ou pourquoi pas le temps de travail réellement effectué par les salariés depuis le début de l'année 2022. Mmh. Donc on va pouvoir en d'autres termes moduler le montant de cette prime en fonction des différentes populations. Donc il faut rassurer votre auditeur, c'est tout à fait normal et c'est parfaitement valable juridiquement.
Marc nous a demandé sur notre adresse avec vous, avec bfmbusiness.fr, mon contrat de travail prévoit un forfait jour de 217 jours dans l'année donc et j'ai travaillé 234 jours. Puisque je n'ai pas pris mes RTT, puis-je me les faire payer?
Le Code du travail prévoit pour les forfaits jours une règle d'un nombre d'heures maximum travaillées sur l'année, très souvent 218 jours. Et c'est vrai que le salarié peut travailler au-delà de cette limite, la limite étant 235 jours. Qu'est-ce qui se passe pour le travail accompli entre 218 et 235 jours? Le Code du travail fixe une règle simple, il doit y avoir un accord écrit passé entre l'employeur et le salarié, au terme duquel les heures travaillées en complément seront payées et évidemment majorées. Mmh. La question un peu nouvelle qui nous intéresse, c'est que se passe-t-il si aucun accord a été traité? Est-ce que ça signifie que le salarié va épargner ses jours, il les prendra ou il se les fera payer plus tard? Ou est-ce qu'il peut forcer son employeur à les faire payer? La Cour de cassation vient de répondre, c'est une décision du mois de juillet 2022, en disant qu'on peut déduire de cette situation un accord implicite entre l'employeur et le salarié, et donc le salarié obtiendra cette rémunération payée, je le rappelle, sous forme d'heures supplémentaires.
Donc, une petite somme quand même en ce qui le concerne.
Une petite somme, effectivement, compris quasiment sur un demi-mois de salaire, dans l'hypothèse où on travaillerait jusqu'à 235 jours dans l'année.
Bon, Marc, il est juste aux limites hein, des dates que vous venez de nous dire, hein, 217 et 234 jours. Une autre question qui va intéresser ceux qui ont de l'épargne et de l'intéressement, c'est Frédérica qui nous dit qu'elle voudrait procéder à un déblocage exceptionnel de son intéressement et sa participation. C'est vrai qu'on a pas mal parlé de ce mécanisme sur ce plateau à cette heure-ci depuis la rentrée. Tout ça est sur son PEE, y compris les sommes qu'elle avait spontanément versées. Elle nous demande comment elle peut débloquer cet argent.
La nouveauté, c'est la loi du 16 août 2022, dont on ne cesse d'ailleurs de parler. Cette loi prévoit un déblocage anticipé de l'épargne du salarié constitué par l'intéressement et la participation. Alors, si on essaye de voir un peu clair sur le sujet, le déblocage peut au maximum représenter 10 000 euros pour les salariés. Il s'agira des sommes épargnées au titre de la participation, de l'intéressement, ainsi que de l'abondement versé par l'employeur. Vous savez, l'abondement, c'est une somme supplémentaire que l'employeur va apporter en plus du versement automatique de la participation et l'intéressement. Il y a une limite toutefois, c'est que si le salarié a lui-même rajouté un versement volontaire sur son PE, cette somme-là, il ne pourra pas la débloquer par anticipation. Elle devra donc rester sur le fameux PE pour une durée de 5 ans, hors hypothèse, bien sûr, de cas de déblocage anticipé qui sont prévus par la loi. Je les rappelle brièvement, le divorce, le rachat d'une résidence principale, le licenciement du collaborateur, etc.
Oui, mais c'est bien de le rappeler, parce qu'on a l'impression que là, il y a plein de choses qui se débloquent, mais en fait, il y a quand même des situations où on peut toucher à cette épargne salariale.
Hein. Tout à fait. Bon.
Alors, juste pour conclure pour Frédérica, du coup, l'argent qu'elle a versé spontanément, pas possible, il doit rester. En revanche, tout ce qui est intéressement et participation, ça peut sortir.
Exactement.
Selma nous demande, j'emploie une centaine de salariés, lesquels me demandent de prendre à ma charge les frais de transport entre leur domicile et l'entreprise, au prétexte qu'ils viennent en vélo ou utilisent le covoiturage. Que dois-je faire ?
Alors peut-être un rappel de la situation. Pour n'importe quel collaborateur, il y a une prise en charge de ses frais de déplacement, la fameuse carte Navigo pour les franciliens, les frais de transport en aller-retour seconde classe dans le reste de la France et les TER, dans une certaine limite. Au-delà, c'est vrai que la loi a voulu favoriser ce qu'on appelle le déplacement vert. Et donc a été créé le forfait mobilité durable. Je précise tout de suite aux auditeurs, ce n'est qu'une faculté qui est donnée à l'employeur, s'il le souhaite, de participer à ces frais de déplacement pour le salarié qui vont venir se rajouter à la prise en charge des frais de transport. Simplement une faculté, c'est-à-dire que si l'employeur n'a pas les moyens de le faire, il n'a pas l'obligation de devoir payer. Quels sont les déplacements, plutôt les moyens de transport qui vont être pris en compte? Effectivement, c'est le vélo physique ou électrique, c'est le véhicule, mais pas le moteur terrestre à explosion, c'est le véhicule électrique ou c'est le véhicule GPL. En tout cas, tous les moyens de transport divers vont pouvoir bénéficier de ce forfait mobilité durable. La vraie question, c'est est-ce qu'il est beaucoup mis en place ? Pour l'instant, pas énormément, et on peut craindre que, vu le contexte économique actuel, les entreprises n'iront peut-être pas sur cette première priorité.
C'est intéressant comment vous insistez sur le mot facultatif, parce que on voudrait pas donner l'impression que tous les employeurs sont rechignent à faire ça. C'est que si c'est facultatif, c'est que ça doit aussi être faisable. C'est ça la dimension peut-être qu'il faut mettre en valeur.
C'est ça, c'est un sujet de budget, de moyens d'action de l'employeur, et ça peut faire partie, pourquoi pas, des discussions lors de la négociation annuelle sur les salaires.
Encore une petite question, on a le temps.
Oui, effectivement, mon employeur veut me forcer à faire une journée de télétravail par semaine pour faire des économies d'énergie et fermer le bureau, comme quoi ça va aussi parfois dans ce sens. Est-ce possible ?
Alors, le sujet de votre auditeur est un gros sujet d'actualité qui va nourrir le débat des entreprises dans les mois qui viennent. Quand vous regardez les chartes ou les accords d'entreprise qui ont été mis en place sur le télétravail, tout cela fonctionne généralement sur la règle du volontariat. Le salarié peut, s'il le souhaite, prendre 1, 2, 3, voire 4 jours de télétravail. Là, on est dans une situation différente. C'est l'entreprise qui va dire j'ai besoin de faire des économies énergétiques et je voudrais, pourquoi pas, fermer la totalité de mes bureaux le vendredi ou le lundi. Est-ce que le salarié a l'obligation d'être en télétravail ? Si on regarde les chartes ou les accords, la réponse est non. Mais je pense que c'est une question qui va donner lieu à des discussions au sein des entreprises, avec les partenaires sociaux, et on voit très facilement sur quoi le débat va s'orienter. La question va être de dire, très bien, l'entreprise veut faire des économies d'énergie, mais dans ces conditions, c'est la facture d'électricité ou de gaz du salarié à son domicile qui va augmenter. Est-ce qu'il y aura des ponts de financement entre l'entreprise et le salarié ? Ça va être un débat, je pense, très intéressant au cours des prochaines semaines.
Ouais, vous l'anticipiez en introduction, de la même manière qu'en plein milieu du Covid, l'employeur pouvait prendre en charge une partie de l'abonnement Internet, on pourrait imaginer une participation à la facture énergétique. Bon, même si personne n'éteint le chauffage en partant de chez soi, enfin, pour l'instant, je ne sais pas si c'est l'usage, notamment pour les gens qui vivent avec des chauffages collectifs. C'est une question qui vous taraude peut-être. Continuez à nous l'écrire au cours des prochaines semaines et on l'abordera évidemment. Merci beaucoup Nicolas Mancret, associé au cabinet Janté, d'avoir été avec nous.
Restez avec nous dans BFM avec vous dans un instant. On recrute avec Lorraine, à tout de suite.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.